On va lire dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, vous voyez comment le Saint-Esprit veut que nous comprenions la venue de Jésus-Christ. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Est-ce que vous aimez vous lever pour lire la parole de Dieu? Est-ce que c'est bien? Non? Mais si ça ne vous plaît pas, mais vous vous asseyez. Mais moi, je trouve que c'est bien de se lever devant le Seigneur pour lire. Non, franchement. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Je répète. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, le Seigneur dit au chapitre 8 ceci. Dans un contexte bien particulier, on va en parler pendant la prédication, Jean chapitre 8. Il bénit les hommes, il part, il enseigne des choses profondes. Et au verset 12 du chapitre 8, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On peut revoir dans quel contexte Jésus a prononcé cette phrase. Si vous lisez au chapitre 10, et au verset 22, vous avez le contexte, et Dieu a voulu qu'on sache le contexte. Vous allez voir, vous allez me dire que je pinaille, mais non, vous comprendrez. Jean chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Vous revenez en arrière, au chapitre 9, le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va guérir un homme qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'œil. Vous connaissez cette affaire, hein? Vers chapitre 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Tous les théologiens pensent que si Jésus a fait ça, parce qu'il en a guéri des aveugles, juste en posant sa main sur eux, ou en leur parlant, mais là, il a pris de la boue, donc il n'avait que les orbites, il n'avait pas d'œil. Vous comprenez? Il lui a fait des yeux. C'est extraordinaire. Mais c'est pas étonnant, il a créé l'homme. Mais enfin, quand même. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », ce nom qui signifie « envoyé ». Il y a là, se lava et s'en retourna, voyant clair. On peut ajouter derrière, après le point, « Merci Seigneur ». Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Ils ne le reconnaissent pas tellement il a changé. Les uns disaient « Non, c'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et ils lui dirent donc « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ?» ont-ils été ouverts ? Et c'est là qu'il a répondu, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Dans Ésaïe au chapitre 9, on reviendra sur cette histoire, Ésaïe chapitre 9 au chapitre 8 même, et au verset 23, il y a une prophétie. Vous savez que le livre d'Ésaïe est rempli de prophéties et de paroles plus belles les unes que les autres, qui nous indiquent la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 23, mes frères, il faut qu'il en soit ainsi. L'Église de la fin des temps ne doit pas vivre dans les ténèbres. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans les ténèbres. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. C'est une parole de Dieu. Et pourtant, combien de gens aujourd'hui sont dans les ténèbres ? Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est-à-dire qu'au-delà du Jourdain, ça veut dire le reste du monde. Les gentils, c'est nous. Voilà. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ces textes nous rappellent, ces quelques textes que nous aurions pu encore développer, nous rappellent quelque chose, c'est que le Seigneur, lui seul, est la lumière du monde. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans cette lumière. Beaucoup de chrétiens sont dans les ténèbres. Beaucoup de chrétiens. Mais ce n'est pas possible. Ils y voient un peu. Non. La Bible est catégorique. Beaucoup de chrétiens retombent dans les ténèbres. Le seul fait de ne pas aimer son frère. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Et si vous avez de la haine pour quelqu'un, vous pouvez dire ce que vous voulez, expliquer la raison que vous voulez, vous êtes dans les ténèbres. Il faut qu'on le dise. La Bible dit même que celui en qui ces choses ne sont pas. Vous savez que tout est grâce, bien sûr. Tout est grâce, tout. Mais il n'empêche qu'à cette reprise, si je ne me trompe, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous demande de faire des efforts pour que notre piété soit une vraie piété, pour que joindre à la foi à la vertu à la patience à la bonté l'amour, etc. Et il dit, si ces choses ne sont pas en vous, vous ne voyez pas, vous êtes aveugle. Vous avez oublié la purification de vos anciens péchés. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et nous pourrions voir dans la parole de Dieu qu'à plusieurs reprises, parce que la haine s'est installée dans le cœur, parce que la piété n'a pas été développée, ou tout simplement parce que la tiédeur nous a envahis. Jésus dit dans la dernière église de Laodicée, ben, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu à cause tout simplement de la tiédeur. La tiédeur peut rendre quelqu'un aveugle. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point l'ennemi sait tout faire pour nous troubler la vue, pour nous faire perdre la vue, et que nous soyons comme des païens dans le monde, tout en nous croyant chrétiens. Jésus dit à cette église, tu ne sais pas, tu crois, mais tu es dans l'illusion. Et mes frères et sœurs, nous ce que nous voulons, c'est vivre dans la lumière. Et la lumière, elle est venue par Jésus. En lui était la vie. Et la vie était la lumière du monde. La lumière, elle ne peut venir que par la vie. J'ai pris l'évangile de Jean. Pourquoi j'ai pris l'évangile de Jean ? Parce que si vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez que Dieu nous fait venir Jésus directement du ciel. Au commencement était la parole. On voit que dans l'évangile de Jean, Dieu veut que l'on comprenne que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il vient directement du ciel. Quand vous lisez Matthieu, Marc et Luc, vous voyez Jésus qui vient par le biais de Marie et Joseph. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il vient, c'est le petit enfant de la crèche qui vient sur la terre. Dans une semaine ou quelques jours, on va fêter la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr que quand on lit les évangiles, on voit bien que Jésus nous est présenté comme le petit enfant qui vient dans la crèche. Jésus de Bethléem, Jésus le fils de l'homme. Vous avez vu combien Jésus aimait dans l'évangile de Luc se présenter comme le fils de l'homme. Quand le diable l'oppresse, il dit, mais si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et Jésus dit, l'homme, Jésus est venu comme un homme. Il s'est fait homme, même si nous devons le voir comme le fils de Dieu. Comment vous le voyez, vous, le Seigneur Jésus, au fait, ce matin? Vous le voyez comme le petit Jésus, qui est né dans une étable, inoffensif? Vous le voyez comme ce jeune homme à 12 ans dans le temple, en train de presque de donner une leçon aux pharisiens? Vous le voyez comme le fils de l'homme? Le fils de Dieu, est-ce que c'est virtuel? Ou est-ce que vous le voyez peut-être même comme nous devrions le voir dans l'Apocalypse? Quand Jésus se révèle, vous savez, quand Jésus se révèle dans l'Apocalypse, l'Église a beaucoup, beaucoup perdu. On le voit par les écrits. L'Église a beaucoup abandonné Dieu. Les gens se sont détournés de Dieu. Et Dieu veut que Jésus soit tout à nouveau révélé dans les cœurs. Et il dira, d'ailleurs, vous avez vu comment Jean, qui le connaissait le mieux, puisqu'il est dit que Jean était le disciple que Jésus aimait, donc on peut en déduire que c'est celui qui connaissait le mieux le Seigneur sur la terre. Mais lorsque Jésus se révèle à Jean dans l'Apocalypse, il nous est dit que Jean, il est tombé comme mort. Quand il a vu, vraiment, il ne l'a même pas vu comme le fils de Dieu. Pourtant, il le présente dans l'évangile de Jean comme vraiment le fils de Dieu. Pour Jean, il n'y a pas de problème. Jésus est vraiment Dieu, incarné en chair. Mais là, dans l'Apocalypse, regardez la façon dont Jésus se présente. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous le voyons. Il est le vivant. Il était mort et il est vivant. Et il est la vie, et il règne au siècle des siècles. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez Jésus différemment que dans l'introduction de Matthieu. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, quand même, on voit cette gradation. Comment vous le voyez, le Seigneur? Comment vous le voyez aujourd'hui? Parce qu'on a chanté tout à l'heure, « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». D'accord. Est-ce que vous savez que vous le verrez? Vous le réalisez? On va le voir. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Mais soit dans un camp ou soit dans l'autre, soit comme sauveur et comme avocat, soit comme juge, et ça ne va pas être facile pour tous ces gens qui ne veulent pas, comme nous, se retrouver dans la maison de Dieu pour s'occuper de leur piété. Laissez-moi vous dire que pour ces gens-là, ça ne va pas être marrant du tout de se retrouver devant le Seigneur Jésus. Ils peuvent rire, oui, comme disait Lucas lorsqu'on chante des cantiques, nous ça ne nous fait pas rire, nous ça nous réjouit, parce que le Seigneur Jésus, il est vivant, et il est la lumière. Et il a voulu montrer dans l'évangile de Jean qu'il était vraiment la lumière du monde. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Vous savez, moi, je me fais du souci, je vous le dis franchement. Je me fais du souci, même si ce souci, je le dépose au pied du Seigneur. Paul parle du souci que lui donnaient les églises. Mais bien sûr, on doit tout déposer. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. C'est écrit, mais il n'empêche qu'on se fait du souci. On se fait du souci pour les rétrogrades. Tous ces gens qui ont confessé le bon nom du Seigneur dans les eaux du baptême et qui n'avaient pas de racines et qui sont partis. Et puis on se fait du souci pour ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Les moqueurs, ça va mal finir pour eux. Alors oui, je me fais du souci. Et je sais que le seul moyen, c'est pas de faire des prédications, tant que vous voudrez. Le seul moyen, c'est que les gens fassent une expérience avec Dieu ou qu'il refasse une expérience avec Dieu, comme cet aveugle-né, il est né sans les yeux. C'est déjà arrivé que des gens n'aient pas d'œil. Ça arrive, ça, que des gens n'aient pas d'œil. Et lorsque les disciples le voient au bord du chemin, ils lui disent, mais comment ça se fait? Vous savez tellement, tout est lié au péché, eux, ils posent la question, qui c'est qui a péché? Lui ou c'est... Vous voyez, comme quoi, des fois, on en dit des bêtises. Lui ou ses parents? Comment il aurait pu pécher dans le sein de sa mère? Est-ce qu'il pouvait pécher dans le sein de sa mère? Bien sûr que non. Mais voyez la religion. Comment ça nous fait dire parfois des bêtises? La doctrine. Et Jésus dit non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin de manifester ma gloire. Et s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que nous aussi, nous y voyons. Parce que nous naissons tous comme cet aveugle. Nous naissons tous aveugles, oui ou non? Nous naissons spirituellement tous aveugles. Et nous avons besoin de faire une expérience avec Dieu. Noël, c'est l'occasion rêvée. Et pourtant, que de lumière à Noël. C'est pour ça que je vous ai lu le texte dans Jean au chapitre 9, où Dieu a voulu que le Seigneur dise qu'il était la lumière du monde, pendant la fête de la dédicace. Vous l'avez lu avec moi tout à l'heure. Vous l'avez lu, hein? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a dit plusieurs fois « Je suis la lumière », qu'il a ouvert les yeux de cet aveugle-né, qu'il a ressuscité Lazare, qu'il a fait des choses extraordinaires, qui sont des signes, ce n'est même pas des miracles. Quand Jésus marche sur l'eau, ce n'est pas un miracle, c'est un signe, bien sûr que c'est un miracle. Mais au-delà du miracle, c'est un signe. Quand Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, qui change l'eau en vin, ce n'est pas un miracle. Bien sûr, c'est le premier miracle. Mais en vérité, ce sont des signes pour montrer ce qu'est le Seigneur. Le Seigneur, il peut tout changer. Alléluia. Et ce matin, il faut que nous comprenions une chose, que l'expérience qu'a fait cet aveugle-né, elle est encore à notre portée. Elle est encore une fois à notre portée, car on peut se faire piéger. On peut être chrétien et avoir perdu la vue. Et être là dans les ténèbres, ne vivre dans l'illusion, moi je vous assure, je me fais beaucoup de soucis. Le don spirituel, à qui il était adressé? Eh bien un chrétien qui s'imagine que, eh bien, il peut faire comme il lui plaît, que s'il se comporte comme les gens du monde, c'est pas grave. Si les gens du monde racontent des blagues salaces, ben c'est pas grave, je peux rire avec. Moi je crois qu'un chrétien, il doit prendre position. Oui ou non? Il prend position. Il a besoin de prendre position. Le Seigneur, il a dit, je suis la lumière, mais juste après, il va parler au chrétien, il va dire, vous êtes la lumière. Il met à son tour, puisqu'il va partir, il met sur nous ce devoir, cette responsabilité, cet honneur, ce privilège que nous avons de témoigner de la lumière. C'est pas facile, je le sais, j'ai travaillé dans des boîtes de nuit, j'ai travaillé dans des chantiers, en étant chrétien, pas longtemps en boîte de nuit, je ne suis sorti, mais j'ai travaillé sur des chantiers, et je sais ce que c'est de ne pas rire quand on raconte une blague. Parce que des fois les gens me disent, oui mais vous êtes pasteur, vous ne vivez pas dans le monde. Écoutez, pendant 6 ans j'ai travaillé avant de rentrer dans le ministère, et je peux vous dire que je sais prendre position où que je sois. Et un chrétien, il a ce devoir de vivre dans la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà la volonté de Dieu. Nous pouvons vivre avec ce Seigneur merveilleux. Il faut commencer à lui obéir. Cet aveugle n'a pas discuté. Quand Jésus a dit à cet aveugle, écoute, tu vas au réservoir de Siloé. C'était à, je ne sais pas combien de mètres, 100, 200 mètres, 1 kilomètre. Il y a été. Il aurait pu dire, écoute Seigneur, écoute, premièrement, je ne vois pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je ne vais pas aller tout seul. Comment il y a été cet homme au réservoir? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne ne sait. Il y a été. Il y a été, il y a été avec sa canne. Vous savez comment font les aveugles des fois? Est-ce qu'il y a été là avec sa boule sur les yeux? C'était. Il y en a qui devaient se dire, mais vraiment, il a perdu la tête, le pauvre. Parce qu'imaginez, parce que nous, on lit, on ne se fait pas le film. Mais imaginez cet homme avec les yeux pleins de boue. Il obéissait au Seigneur. S'est-il fait accompagner par quelqu'un? A-t-il attendu que quelqu'un passe? C'est pas important qu'on le sache. Mais il a obéi. Aujourd'hui, on dit, mais attends, écoute, ouvre-moi les yeux, puis après, j'irai au réservoir. On est dans un monde qui ne fait que discuter. Tout le monde discute. On n'a pas à discuter. Bien sûr, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, quand Jésus nous demande quelque chose, je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter. Vous croyez qu'il y a besoin de discuter quand Jésus demande quelque chose? Quand le Seigneur nous demande quelque chose, ça devrait être une grâce. Le Seigneur, il ne va pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. Le diable, il est comme ça. Mais Dieu, lui, il ne nous demandera que des choses que nous pouvons faire. Et s'il nous demande d'avancer ce matin, même si les yeux sont aveuglés, si je reconnais que je suis dans les ténèbres, oui, j'ai peur du lendemain. C'est un indice, ça. C'est un indice. Jésus a dit, n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, le Seigneur prendra soin de ses enfants. Nul ne le ravira de sa main. Si nous, on la lui garde, parce qu'on peut se détacher soi-même. Comme un homme peut s'éloigner de sa famille, comme une femme peut s'éloigner de son mari, alors que ce n'est pas du tout la volonté du conjoint. On peut s'éloigner du Seigneur. Donc c'est dans un contexte, alors écoutez bien, parce que c'est merveilleux, Dieu a voulu qu'on le sache. C'était pendant la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, vous en entendez parler tous les ans, aux alentours de Noël, c'est la fameuse fête de la Hanouka. Vous en entendez parler, la fête de la Hanouka? Oui? Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, tous les ans, on entend parler, la fête juive, ils célèbrent la Hanouka. Vous savez, ils mettent des bougies partout sur les fenêtres. Vous connaissez cette à Noël, ils font beaucoup la fête de la lumière. C'est la perpétuation de cette fameuse fête. Alors, ça s'est transformé en tradition, mais en Israël, tous les ans, ils fêtent la fameuse fête de la dédicace. La ville était remplie, inondée de lumière. Pourquoi? C'est intéressant. Vous savez, il y a les livres inspirés, que nous avons dans notre saint livre, et puis il y a des livres historiques. Le livre des Maccabées, par exemple, est un livre qui a été rajouté dans certaines versions, qui indique, mais vous allez sur l'histoire d'Israël, vous le trouvez, qu'est-ce que c'est la Hanouka? Vous tapez sur Internet, faites Hanouka, et vous allez voir ce que je vais vous dire. C'est pas compliqué. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai lu dans bien des livres. La Hanouka, je vous expliquais bien, quand le pays d'Israël était plongé dans les ténèbres. Ça s'est passé dans la période après Malachie, vous savez, où il n'y a pas eu de prophète, et entre Matthieu, où il y a eu 400 ans de silence. 400 ans de ténèbres. En 160 avant Jésus-Christ, le pays était occupé par un empereur qui s'appelait Antiochus Épiphane. C'est vrai, vous allez me dire, il sort un peu du sujet, monsieur Gosset. Mais c'est de l'histoire, vous allez comprendre. Le pays était occupé par Antiochus Épiphane, qui est vraiment le type de l'antéchrist, un homme qui était pervers, mauvais, méchant, qui a oppressé les Juifs, qui a oppressé Israël. Il a commencé à détruire une partie du temple. Et il a poussé le comble. Écoutez bien, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a poussé le comble à sacrifier une truie sur l'autel du lieu saint. C'était pour les Juifs, c'était quelque chose d'inacceptable. Et ce fameux Judas Maccabée que l'on connaît dans son livre, attention, ce n'est pas un livre inspiré, mais c'est un livre d'histoire. Et ce Judas Maccabée a soulevé une foule de croyants et ils ont réussi, c'est extraordinaire, ils ont réussi à chasser Antiochus Épiphane d'Israël. Et la première des choses qu'ils ont voulu faire, ils ont eu raison, ils ont voulu nettoyer le temple, le purifier, le reconstruire, tout nettoyer, célébrer le culte à notre Dieu, au Dieu d'Israël. Ils ont voulu faire ça avec passion et bien sûr, ils ont voulu rallumer le chandelier à cette branche. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché, parce qu'on n'allumait pas avec n'importe quelle huile, il fallait de l'huile consacrée. Cette huile, il fallait plusieurs jours pour la produire. Et ils ont trouvé une fiole qui a servi, qui était pour une nuit, pour un jour. Donc ils ont rallumé le chandelier dans le lieu saint. Et cette huile, écoutez bien, parce que tout ça c'est lié, il faut comprendre, à la lumière. Et lorsqu'ils ont allumé le chandelier, la première lampe, l'huile qui devait durer un jour a duré 8 jours. Le temps qu'ils fabriquent de l'huile consacré. Et depuis ce jour, en 169 avant Jésus-Christ, en Israël, tous les ans, pendant que nous fêtons Noël, eux fêtent la Hanouka, la fête de la lumière, la fête de la dédicace. Et le premier jour, c'est une lampe, c'est une chandelier à 9 branches. Il y a au milieu, un peu plus haut, vous avez certainement vu, cette fameuse lampe qui s'appelle le Mamos, je crois. Ça signifie le serviteur. Et tous les jours, le premier jour, ils allument une lampe. Et le deuxième jour, ils allument une lampe. Et le troisième jour, ils allument la troisième lampe. Ainsi de suite jusqu'à 8 jours pour rappeler à tout Israël que Dieu a fait un miracle ce jour-là quand on a honoré le Seigneur. Et c'est dans ce contexte où Jérusalem était inondée de lumière que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez que de suite, on voit pas le texte de la même manière. Parce que la question qu'on nous pose souvent, Noël, est-ce que c'est une fête païenne? Tiens donc, Noël, est-ce que c'est une fête païenne? Par exemple, les témoins de Jéhovah disent, si vous avez discuté avec certains, que les chrétiens, on est une secte. Écoutez bien, c'est la vérité ce que je vous dis. Vous allez comprendre, je ne sors pas de mon sujet, ne vous inquiétez pas. les témoins de Jéhovah, entre autres, disent que nous sommes une secte parce que nous, les chrétiens, nous fêtons Noël. Que Noël ne fait pas partie des fêtes du Lévitique 23. Donc, il y a la Pâque, la Pentecôte, etc. Vous connaissez les sept fêtes du Lévitique. Noël ne fait pas partie des fêtes du Lévitique. Donc, nous sommes une secte parce que nous fêtons Noël. Bon, qu'est-ce que c'est Noël aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est Noël aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste du véritable Noël? Noël, ça veut dire nativité. En latin, Noël, natalis, ça veut dire la nativité. Donc, Noël, en vérité, rappelle, même si c'est par la tradition, que c'est la naissance de Jésus. Pour nous les chrétiens, quand on fête Noël, on fête la venue de Jésus. Vous me suivez? Mais pour les gens du monde, Noël c'est quoi? C'est quoi pour les gens du monde Noël? Écoutez, je vais faire simple, c'est l'orgie. C'est du théâtre. Vous savez qu'en France, on est fort, en France, on fête même le Noël des animaux. Enfin, je ne vais pas tout vous dire, mais Noël, c'est devenu du théâtre. Les gens vont à l'église, que Dieu me pardonne, parce que je sais que des catholiques écouteront cette prédication, mais ce n'est pas du tout pour vous mépriser, c'est pour vous expliquer que quand on s'occupe de Dieu qu'une heure par an, je pense que ce n'est pas ça la piété. Il y a des gens qui vous disent, oh, mais moi, vous savez, je ne manquerai pour rien la fête, la messe de Noël. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais si vous pensez à Dieu, qu'un jour par an, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La lumière, ce n'est pas une heure par an. La lumière, c'est tous les jours de notre vie. Il est la lumière du monde. Et quand Jésus a fait ce miracle, vous savez que tout est parfait. Je vous parlais de la rotation de la terre, etc. Ce sont des choses, bien sûr, ça fait technique. Est-ce que ça peut entrer dans une prédication? Mais bien sûr, puisque la Bible nous dit que Dieu compte le nombre des étoiles et que tout a été créé par lui et pour lui. C'est extraordinaire, la création. Ce Seigneur Jésus crucifié au calvaire, c'est lui qui a créé la terre et la rotation autour du soleil pour qu'il y ait l'attraction terrestre. Est-ce que c'est lui qui a tout créé? Mes frères et sœurs, et c'est ce Seigneur-là devant le temple, quand toute la ville était entourée de lumière, bien sûr que c'est beau, toutes ces guirlandes. Est-ce que vous aimez les guirlandes, tout ça? Est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est bien, en fait, les guirlandes, les ampoules qui éclairent les villes? Est-ce que vous aimez ça? Moi, oui. Moi, franchement, j'aime bien. Attention, il ne faut pas que la tradition prenne le dessus sur le spirituel. C'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que je crois quand même que... Moi, quand je vois les étoiles, en plus que si je connais certaines constellations, ça, je sais que c'est Dieu qui les a créées. Quand je vois la constellation d'Orion, la Grande Ourse, est-ce que Dieu parle de la constellation d'Orion? Oui, il en parle. Quand vous regardez la taille de ces étoiles, laissez-moi vous dire que ce sont de grosses boules. Laissez-moi vous le dire. Il a créé tout ça. Et toutes ces lumières, moi quand je vois ces lumières sur les squares, dans les rues, moi je pense à Jésus qui est la lumière. Je vous le dis franchement, tout le temps. Dès que je vois une guirlande sur un sapin, j'ai pas besoin de voir une guirlande pour penser à Jésus. Mais je dis, Seigneur, tu es la lumière. Et les ténèbres ne doivent pas régner. Et il y a trop de chrétiens chez qui les ténèbres règnent ou recommencent à régner. Parce que justement, ils ne veillent pas sur leur piété. Vous voyez, l'église de la Odyssée, c'est l'église de la fin des temps. Jésus est dehors. Est-ce que Jésus peut être en dehors d'une vie? Mais bien sûr que oui. Normalement, un petit examen devrait permettre de le faire. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Comment je vis ma vie avec Dieu? Pas à l'église, en dehors de l'église, justement au travail, à la maison. Est-ce que je vis dans la lumière? Mes frères et sœurs, nous devons vivre dans la lumière. Nous devons être la lumière. Même si parfois, c'est pas fameux. Mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, oh mais moi, vous savez, je ne suis pas terrible, c'est vrai, j'en conviens. Mais bon, moi je suis tranquille, Jésus a dit qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Vous avez vu jusqu'où on peut en arriver? Comment on peut être, excusez-moi le mot, mais il est biblique, comment on peut être tordu vraiment? Jusqu'où on peut en arriver pour justifier son éloignement et penser que parce qu'on ressemble juste à un lumignon qui fume, le Seigneur ne nous rejettera pas. Mais vous savez, un lumignon qui fume, il est vite éteint. Très, très vite éteint. Et quand on en est là, il ne faut pas longtemps pour que tout soit complètement éteint. Alors mes frères et sœurs, nous avons un Seigneur qui nous dit « Oui, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. » Moi, je pensais à ce texte, je pensais à cet aveugle-né. Quand les Juifs ont été le voir, parce que la religion, ils étaient en colère. Ils étaient en colère. Parce que Jésus avait guéri cet aveugle. Alors ils vont le voir, on n'a pas lu tout ça. Ils vont le voir, ils disent « Mais comment ça s'est passé ? Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Et eux, ils se demandent. Alors l'homme, il va faire exactement ce qu'il faut. Il dit, mais moi, techniquement, je ne sais pas trop comment Dieu m'a ouvert les yeux. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'œil, pour les faire, c'est quand même compliqué. Ce n'est pas une roue de voiture, ça. Mais je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai voulu comprendre ce beau cantique, je ne sais pas. Il y a des choses, c'est pas grave, je le répète, je le répéterai toujours, c'est pas grave si vous savez pas qui c'est le dernier prix Nobel de la paix. C'est pas grave. Mais si vous savez pas que Jésus peut ouvrir les yeux, c'est grave. Et cet homme, il va leur dire, mais je sais pas, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Et voilà ce que nous devrions pouvoir dire à l'issue de ce culte. Est-ce que vous pouvez dire, mais moi aussi, je ne sais pas l'expliquer. Comment je suis. Parce qu'on témoigne, les gens témoignent, on a eu quelques baptêmes, on a entendu des beaux témoignages de personnes qui ont entendu l'évangile, qui ont compris que Jésus était mort sur la croix, qu'ils se sont repentis de leurs péchés parce qu'ils étaient convaincus de péché. Tout ça, bon, c'est bien. Mais en vérité, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer, vous ? Comment vous êtes passé des ténèbres à la lumière? Est-ce que vraiment vous pouvez expliquer comment vous êtes passé de la mort à la vie? Moi, franchement, je ne suis pas capable. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a fait. Mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et vous verrez toute son histoire et la façon dont cet homme a reconnu, parce qu'il ne le connaissait pas. Cet homme doit venir de Dieu. Cet homme est un prophète. On voit que de plus en plus il le harcèle, plus il réalise qu'il a eu affaire au Seigneur Jésus. On ne le connaît pas. Tant que nos yeux sont fermés, Jésus, Jésus, on se moque de nous. Dites que vous aimez Jésus. Les gens vont vous regarder comme si vous étiez malade. Allez dans la rue tout à l'heure. Dites, oh, vous savez, j'aime Jésus. Les gens vont dire, ils vont appeler le SAMU. Dites que vous aimez l'homosexualité. Dites que vous aimez le diable. Ça ne sera pas pareil. Ils vous accueilleront. Ils vous admireront. Vous savez, moi, il y a un verset qui me fait mal au cœur. C'est quand il est dit que quand l'Antéchrist règnera sur la terre, les gens, le monde l'admirera. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et pourtant, quand Isaïe présente Jésus, il dit, voilà comment on l'appellera. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, admirable. Moi, je ne trouve pas que beaucoup de gens admirent Jésus. Aller à l'église, oui, oui, oui. Lire ma Bible, prier un petit peu, faire mon devoir religieux, oui, 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 oui. Mais est-ce que je suis cet admirateur? C'est vrai que j'admire. Moi, j'aime aller regarder ces sites sur l'astronomie. C'est extraordinaire. Parce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Vous le croyez? Mais quand même, il n'y a pas photo. Quand on regarde les merveilles de la création et quand on regarde le parcours de Jésus sur la terre, ce qu'il a fait pour que vous et moi ce matin, vous puissiez dire non, les ténèbres, elles ne régneront pas dans ma vie. Si ce frère, il veut marcher dans la pénombre, c'est son problème. Moi, je veux marcher dans la lumière. Moi, je veux marcher dans l'espérance. D'autant plus que Jésus va revenir. Et il va revenir très, très, très bientôt. La colère est en train de monter aux narines du Seigneur. Je prends un texte biblique. Parce que des fois, on me dit, oui, monsieur Gros, vous avez dit un truc. Quand je dis quelque chose qui n'est pas compréhensible toujours, croyez-moi, c'est une expression, une parole de Dieu. Et la colère va lui monter au visage. parce que les hommes ont rejeté Dieu, et Dieu patiente, et ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un effet de la patience de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Jésus va revenir, et qu'il ne fera pas bon être sur la terre lorsque Jésus aura enlevé les siens, parce que la colère de Dieu va venir. Mais en attendant, c'est la grâce, il peut ouvrir les yeux, il peut mettre sa main ce matin sur vos yeux, et vous dire, voilà, je veux que tu vois, va au réservoir. Va au réservoir, qui signifie envoyer ça. C'était l'image de notre parole. La parole, c'est pas un livre, la parole. En elle était la vie. La parole, elle est vivante. Vous le croyez que la parole est vivante? Le Seigneur, c'est la parole vivante. Le Seigneur, c'est la parole écrite, d'accord. Mais le Seigneur, c'est la parole vivante. Il est vivant, mes frères et sœurs. Quand vous priez, vous devez réaliser que vous avez affaire à un Dieu qui est vivant. Et il règne. Et il va revenir. Et il ne prendra que les chrétiens qui obéissent. C'est écrit tout ça. Je n'invente rien. Des fois, on me dit, mais comment vous préparez vos sermons? Eh bien, je répète que des versets bibliques. Quand je vous dis que c'est à la fête de la dédicace que Jésus a scellé la lumière, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai lu. Jésus a dit, je suis la lumière. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, Seigneur Jésus, tu m'éclaires. Tu es ma lumière, je marche vers ma patrie. Oui, je sais que quand Jésus va partir, quand Jésus va venir, je serai prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Vous savez, il y a un pasteur dans une église, il y a longtemps de ça. Il a été dans une église, il y avait un chant sur le salut. Est-ce que vous êtes sauvé? Tout le monde a levé la main. Écoutez bien, c'est grave. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai lu ça. Et il a prêché sur l'enlèvement. Et il a expliqué que les chrétiens qui vivaient dans le péché, les chrétiens qui désobéissaient, ils ne partiraient pas. Et qu'ils ne seraient pas pris pour l'enlèvement. C'est évident. Et à la fin, il a dit, qui est prêt à lever la main? Il n'y a que quelques mains qui se sont levées. Vous entendez? C'est vrai cette histoire. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion. Il est la lumière. Et si ce matin, Dieu te dit au travers de ce message, va au réservoir. Va au réservoir de Siloé. Et lave-toi. Eh bien Seigneur, mais je vais le faire. Je vais me replonger dans la parole. Il faut que mes yeux s'ouvrent tout à nouveau. C'est pas normal qu'après 10 ans de conversion, j'ai toujours peur du lendemain. Je suis tout le temps stressé parce que, bien sûr, ça peut arriver. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. On peut avoir une angoisse. Est-ce que ça peut arriver d'avoir une angoisse parce que sur le coup, une chose nous a blessé? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr, lisez les apôtres. Paul a eu des angoisses. David a eu des angoisses. Enfin, tous les hommes de Dieu ont eu des angoisses. Tous les hommes de Dieu, même Spurgeon, si vous avez lu la vie de Spurgeon, Spurgeon qui était quand même un prédicateur hors pair, cet homme, il a eu une dépression, il a été interné. Spurgeon a été dans un hôpital pour être soigné à cause d'une dépression. Mais je peux vous dire que quand vous lisez ce qu'il a écrit, vous voyez que Dieu l'avait permis. Il n'a pas traversé que des années de dépression, il a travaillé des mois de dépression, et Dieu a mis sur son chemin des hommes qui étaient dépressifs, et il a pu les aider. Oui, mais je fais la différence entre une situation ponctuelle, une épreuve ponctuelle, une crainte qui est là, qui m'envahit, parce que j'ai peur, et puis dit non, je veux bannir, on l'a chanté, bannissez la crainte. On ne l'a pas chanté tout à l'heure? Bannissez la crainte. Seigneur, tu me demandes de bannir l'inquiétude. Eh bien, je ne veux pas être inquiet. Et tu vas m'aider. Il est la lumière et il va vous aider. Et demain, vous n'aurez pas peur. Et après-demain, vous n'aurez pas peur. Et quand vous regarderez les infos, vous n'aurez pas peur. Mais si vous avez peur en regardant les infos, ne les regardez pas. Il y a des gens qui disent, oh, monsieur, quand je regarde les infos, j'ai peur. Ça fait peur quand je vois les infos. Eh bien, ne regardez pas. Regardez les infos de l'Apocalypse. Regardez-les. Parce que je peux vous dire que c'est du live. C'est du direct, les infos de l'Apocalypse. Parce qu'on va y arriver. Mes frères et sœurs, le Seigneur est-il votre lumière? Y a-t-il dans votre maison encore des recoins, des pièces qui ne sont pas allumées? Ou est-ce que Jésus est juste à la cave? Vous savez, la lumière dans une cave, ce n'est pas terrible dans une maison. Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi, mon Seigneur, il est dans toutes les pièces de ma maison. Il est dans ma chambre, il est dans mon bureau. Il est dans ma salle à manger, il est dans ma cuisine, il est dans ma salle de bain, il est dans toutes les pièces de ma maison. La lumière, elle brille partout dans ma maison. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui dit « Je suis la lumière ». Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mes frères et sœurs, on va célébrer le pain et le vin. On est là dans un pays en liberté. C'est une grâce d'être en France. Vous le croyez que c'est une grâce? Mais mes frères et sœurs, nous sommes dans un pays libre. Cette liberté, nous devrions l'utiliser pour être des sources de bénédiction. Et je veux prier pour les pays persécutés. Je vous ai donné une fiche. Vous pouvez me la donner, Jeanson, s'il vous plaît. Je vous ai donné une fiche dernièrement. On l'a fait faire. On l'a pas fait faire. Merci. On l'a pas fait faire pour la faire faire. Vous voyez, c'est la liste des index persécutés. J'espère que vous l'avez prise et que vous priez pour les frères et sœurs en Corée du Nord. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine en Corée du Nord ? Il y a un pasteur canadien qui a été emprisonné à vie pour soi-disant trafic. Laissez-moi vous dire que les procès en Corée du Nord, c'est expédié. Parce qu'il allait faire du travail spirituel, on l'a emprisonné à vie. Et je peux vous dire qu'il faut prier pour cet homme parce qu'il n'est pas prêt de sortir. S'il n'y a pas la grâce de Dieu. Nous, on est pasteurs. Cette semaine à la mairie, ils m'ont téléphoné, voilà, pour ci, pour là, pour nous aider. Je leur ai expliqué, pour la sécurité, etc., etc. Et ils vont nous aider, nous proposer un terrain, nous proposer un local. En France, on est aidés. S'il y a un problème, on peut faire venir les gendarmes, etc., etc. Dans certains pays, les chrétiens, ils sont persécutés, ils sont assassinés. Et croyez-moi que dans certains pays, quand un pasteur, il est tué, ou un chrétien, je peux vous dire que la famille derrière, elle n'est pas aidée. Ils détruisent parfois les maisons, les gens se retrouvent à la rue, et nous, on est là, dans le confort. Alors vous avez dit, ben, c'est pas notre faute. Oui, c'est pas notre faute. C'est une grâce. C'est vrai que Jésus a dit que dans la fin des temps, il y aurait des persécutions. Et de l'autre côté, il est dit que ceux qui, à cause des excès du manger et du boire, c'est écrit ou c'est pas écrit ? Est-ce que c'est écrit ? À cause des excès et du boire, certaines ne veilleront pas. Comment expliquer ce qui se passe dans la province d'Orissa en Inde ? Comment expliquer qu'à Toulouse, bien sûr que nous, on vit dans l'abondance. Mes frères et sœurs, qu'on soit en Inde ou qu'on soit à Toulouse, ce qui est important, c'est d'obéir au Seigneur. Et si le Seigneur ce matin te dit, va au réservoir, lave-toi afin que tu vois à nouveau, eh bien le Seigneur il vous donnera tout à nouveau une vue nouvelle. C'est ça que nous avons besoin. Seigneur, montre-moi, j'entends une prédication après l'autre, j'entends un enseignement sur ci, un enseignement sur ça, je voudrais même m'appliquer à imiter. Je pensais à ça pour des pasteurs, on va mettre le livre des actes, on va imiter le livre des actes. Ça ne sert à rien. Dieu ne nous a jamais demandé d'imiter le livre des actes. Dieu nous demande d'avoir une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Vois, tout est fait en lui et par lui. Il est la vie, il est le chemin, il est la lumière. Tout ce qui a été fait dans les cieux et sur la terre, tout a été fait par Jésus-Christ. Il est la vie. Et si nous voulons la vie, il faut écouter ce qu'il dit. Et s'il te dit ce matin au travers de ma vie, de mon ministère, va au réservoir de Siloé, après tu ne sais pas la peine, tu ne sais pas expliquer comment ça se passe, c'est pas grave, mais va au réservoir, va à la parole et lave-toi. David, quand il a péché, eh bien, qui méritait la mort, il a dit « lave-moi Seigneur ». Il l'a dit ou il l'a pas dit ? « Lave-moi, purifie-moi et je serai pur ». Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il ne demande pas à Nathan, surtout que je reste le roi d'Israël, ça c'est archi important. Non, il s'en fiche de sa royauté. Ce qu'il veut, il dit, ne me retire pas ton esprit saint. C'est quoi qui est important ? Votre titre, votre position, ce que les gens pensent de vous ? Ou est-ce que ce matin vous dites, non, ce qui est important, c'est que Jésus soit la lumière de ma vie. Qu'il soit toujours la lumière de ma vie. Tout a été créé par lui. Et pour lui, les visibles et les invisibles. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, même dans le visible. Il y a plein de choses qu'on ne comprendra jamais. Mais ce qui est important, c'est que tout à nouveau, nous ayons une nouvelle révélation du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir comme Jean t'a vu à Patmos. Il y a quelqu'un qui dirait, moi je voudrais revoir Jésus dans ma vie. Le voir agir dans ma vie. Voilà, on va fermer les yeux mes frères et sœurs. Je sais que plusieurs ont besoin de cette exhortation, de dire, mais il faut que je me retrouve avec Jésus. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre les frères ? Restons les yeux fermés. Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit vous parler ? Ou est-ce que vous avez des oreilles et que vous n'entendez plus ? Ou est-ce que vous languissez déjà d'être sorti ? De ce lieu pour aller au resto, j'en sais rien. Tant mieux si vous pouvez y aller. Tant mieux. Est-ce que déjà vous languissez que ce culte soit terminé ? Parce que ça vous dérange un peu la prédication ? Ou est-ce que vous dites, Seigneur, il faut que j'aie une nouvelle révélation de ta puissance, de ton amour. Il faut que je te voie, oui, tu es la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Mais relisez l'Apocalypse et regardez comment Jésus se révèle à Jean qui en est tombé presque mort. Vous ne voulez pas que Jésus se révèle. Vous avez dit, on va bientôt le voir, ce n'est pas grave. Est-ce que vous ne voulez pas le temps qui vous reste à vivre de le voir vraiment agir ? se manifester dans votre couple, dans la vie de vos enfants. Peut-être que vous êtes là tout le temps, oui, ma fille, mon fils, que là. Vous n'avez pas envie ? Seigneur, je crois que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois que tu peux changer le cœur de ma fille, que tu peux changer le cœur de mon gendre. Je crois, Seigneur, que tu peux faire travailler le cœur de mon voisin, que quand il me verra, il ne verra pas un chrétien qui râle, il verra la lumière. Par mon visage, par ma façon de vivre, les ténèbres ne régneront pas toujours sur le territoire des gentils. Oui. Le Seigneur n'a pas pensé qu'à Israël ce jour-là. Il a pensé à Toulouse. Alléluia. Bien sûr qu'on lit ça, nous, on lit ça vite fait. C'est mon devoir à moi de vous l'expliquer. Il a pensé à tous les païens que nous étions. Et 2000 ans après, à Toulouse, dans une ville comme la nôtre, perverse, eh bien nous pouvons marcher avec Dieu. Je lisais ce matin quand les anges... Ils ont été obligés, non mais franchement, de prendre l'autre par la main et de le tirer en dehors de la maison. C'est presque incroyable. Ils l'ont pris par la main. Ils lui ont dit, mais dépêche-toi. Je veux croire que cette prédication ce matin, c'est un peu ça. Je voudrais que Dieu vous prenne par la main et vous sorte des ténèbres parce que le jugement va venir. Vous le croyez pas, ça je sais rien. Mais je peux vous dire que la colère de Dieu va venir. Pas ce qui se passe, même si c'est déjà grave pour tous ceux qui le vivent en tous les cas. Mais la colère, elle va venir. Alors mes frères et sœurs, Jésus, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il tient tout dans sa main. Je vais demander aux chrétiens, avec cœur et bonheur, de se lever à leur place. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous devant le Seigneur, comme on s'est levé tout à l'heure pour lire, mais levez. C'est devant Dieu que vous vous levez. La prophétie nous l'a rappelé. Dieu sait quand tu te lèves, Dieu sait quand tu t'assois, Dieu sait quand tu te couches. La prophétie nous l'a rappelé, c'est le psaume 139. Dieu le voit. Ce matin, Dieu te voit comment tu te lèves. Dieu a vu cet aveugle-né, comment il est parti au réservoir en titubant, en tombant. Peut-être il est tombé 30 fois, j'en sais rien. Qu'importe, il y a été. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais allons au réservoir. Notre Père, tu es la seule lumière. Et même si nos squares et si nos rues sont envahies de lumière, si tu n'es pas là, il n'y a rien du tout. Tu es la seule lumière au monde. Et nous voulons que tu brilles dans nos âmes. Nous voulons que tu sois la lumière de nos âmes à chacun. Seigneur de grâce, oui, nous irons de plus en plus à ce réservoir et tu nous laveras. Nous voulons acheter ce collyre pour y voir clair, Seigneur. Et nous te prions tous ensemble pour tous les rétrogrades, tous, Seigneur, qu'ils soient dans les églises ou à l'extérieur. Nous te prions pour tous les rétrogrades, afin que, comme tu l'as fait pour cet aveugle-né, tu te présentes sur leur chemin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.